Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, je rappelle que nous sommes avec Jean-Christian Petit-Fils, que nous évoquons son dernier ouvrage, Le Saint-Suaire de Turin, l'enquête, vendu 26 euros, publié aux éditions Talendier. Jean-Christian Petit-Fils, nous avons donc cette première mention de l'image à Edès.
Oui.
Et puis, elle a une certaine importance dans l'histoire de l'art, puisque cette représentation va être un argument dans le monde chrétien oriental pour lutter contre l'iconoclasme.
Oui, oui, en effet, on va utiliser cet argument en disant mais le Christ lui-même a laissé des traces sur un linge funéraire et il n'y a donc aucune raison pour qu'on ne puisse pas le représenter. Ça, c'est un premier point. Mais il y en a un autre encore plus important pour nous, c'est le fait que à partir du 5e siècle, eh bien, nous voyons dans l'iconographie représentant le Christ, nous voyons un changement. De paradigme, puisque le Christ, au lieu d'être représenté comme un berger, un berbe figurant Apollon ou un dieu grec, comme on a commencé à le faire dans les premiers siècles, se modelant sur les traditions gréco-latines et mythologiques, nous voyons apparaître un homme barbu avec des cheveux longs, une raie au milieu de la coiffure, et puis une barbe bifide qui est en fait la trace d'un arrachement qui a eu lieu au moment des sévices du Christ, parce qu'il avait une barbe
plus
ronde.
Que ça.
Mais nous voyons des caractéristiques, un œil tuméfié, un carré entre les deux sourcils. Il y a un chercheur qui s'appelle Paul Vignon, biologiste français, qui a déterminé 15 signes comme cela qu'on trouve dans les Christ Pantocrator, les figurations byzantines du 6e, 7e siècle. Donc la seule a servi directement de modèle à toutes ces représentations et jusque dans les tableaux du 16e, 17e, etc. Ce qui pose un problème, évidemment, à ceux qui nient l'authenticité du Lassalle, parce qu'il aurait fallu que le faussaire se mitte à copier parfaitement les visages mythique un visage qu'on aurait créé et qui aurait servi de modèle. Donc c'est une inversion finalement dans des représentations.
Ce qui est établi, c'est qu'entre le 5e et le 13e siècle, nous suivons sans difficulté le parcours du linceul à Edès, puis à Constantinople, où il arrive en 942.
Et
d'un seul coup, en 1204, avec la prise de Constantinople par les croisés, une affaire scandaleuse au demeurant, nous ne savons plus ce que devient la relique. Et c'est là, Jean-Christian Petit-Fils, que vous avancez une hypothèse que je trouve très remarquable parce qu'elle concilie toutes les données que nous possédons et parce qu'elle est d'une logique implacable, tellement implacable d'ailleurs qu'un peu comme dans l'histoire de la lettre volée d'Edgar Poe, elle a échappé à la sagacité des enquêteurs.
Oui, alors je ne suis pas le seul à avoir trouvé cette hypothèse, avoir établi cette hypothèse, mais il y a eu en 1204, en effet, ce sac de Constantinople, et il y aurait eu, d'après certains, le vol d'une relique qu'on présentait à Byzance, dans l'église des Black Cairn, et un chevalier français, Robert de Clary, il parle du sidoine de notre Seigneur que l'on montrait tous les vendredis dans cette église. Et cette sidoine, ce suaire aurait disparu donc au moment des pillages. D'où toutes les hypothèses, est-ce qu'il n'a pas été pris par les Templiers, est-ce qu'il n'est pas passé en Grèce dans les familles d'un riche duc d'Athènes qui s'appelait Othon de la Roche, etc. Tout cela est quand même balayé par certains témoignages, notamment un témoignage postérieur au sac de Constantinople disant que le linceul était encore là, présent. Et on sait que dans le fragile empire latin qui s'était installé avec les croisés et les vénitiens, eh bien, l'un des derniers souverains, empereurs, Baudouin II, de Courtenay, étant à court d'argent, a cédé à Saint-Louis la Sainte Couronne d'épines, qui était un des joyaux de ce trésor de l'église du Pharos, qui était l'église palatine de Constantinople. Et puis, ça se passe en 1239, et en 1241, il y a eu un nouveau lot de reliques qui a été transféré à Paris, là aussi pour un échange d'argent. Alors c'était on habillait ça parce qu'évidemment on n'avait pas le droit de faire de trafic de reliques.
On ne vend pas des reliques, c'est un crime de simonie.
C'était habillé, c'était un prêt, ça remboursait des prêts antérieurs de Baudouin II. Mais voilà, donc du coup la Sainte-Chapelle de Paris s'est transformée en une imitation de la Sainte-Chapelle de Constantinople. Et parmi toutes ces reliques, très nombreuses, eh bien, figure un linge mystérieux qui n'avait pas beaucoup de sens, qui avait perdu un peu sa signification. À Constantinople, déjà, on préférait les reliques de la vraie croix, la Sainte Couronne, plutôt que ce linge qui avait été rapporté en 1944 et qui avait perdu un peu de son importance parce qu'on ne le montrait pas. Donc ce que le chevalier Robert de Clary montrait à l'église des Blackernes, qui est à 5 km du palais impérial, qui est très loin, c'était très vraiment une fausse relique, une copie. Il existait énormément, moi j'ai travaillé sur les voyageurs qui ont visité Constantinople à ce moment-là, et ils décrivent la ville comme emplie de reliques vraies, fausses. Toutes les églises se battent pour avoir des représentations du Christ, de la Vierge, des cheveux de la Vierge, du lait de la Vierge, un poil de la barbe de Saint-Pierre. Il y avait une folie chez ces Byzantins pour avoir des reliques, et des vraies et des fausses. Et là, bon, bah, très probablement, ce linceul, ce silouane vu par Robert de Clary, qui a beaucoup excité les historiens, était un faux, parce qu'on sait que ce linceul conservé dans l'église du Pharos ne sortait jamais. Il était précieusement gardé, montré seulement à quelques visiteurs royaux et rien d'autre.
Et voilà que tout d'un coup, cette relique reparaît dans un village de Champagne, à Liray, dans des circonstances qui resteront longtemps mystérieuses, mais que vous éclairez remarquablement.
Alors oui, mais là aussi, il y a eu d'autres travaux antérieurs, notamment ceux du révérend père Dubarle. Le linceul, en effet, réapparaît en 1354, 1355, dans un tout petit village de Champagne. Et là, il y a des ostensions qui se produisent, donc des foules qui sont attirées, qui viennent voir ce linceul du Christ. Alors, comment est-il parvenu à Liray? Je suppose que, avec quelques autres historiens, mais assez peu nombreux, que c'est le successeur, un lointain successeur de Saint-Louis, Philippe VI de Valois, qui l'aurait remis à son porte-étendard, Geoffroy de Charny, qui s'était fort bien comporté, qui avait été prisonnier en Angleterre, et il lui aurait donné ce linge, l'ayant trouvé dans une boîte spéciale, dans le trésor de Notre-Dame, sans lui attribuer une fonction particulière, se rendant pas compte en réalité
de la valeur de l'objet.
De la valeur de cet objet, la valeur immense de cet objet. Pour lui, l'essentiel, c'était la Sainte Couronne, bien entendu, comme pour Saint-Louis. Et d'ailleurs, Philippe VI de Valois avait signé des édits pour authentifier une autre relique qui était conservée en Périgord, dans l'abbaye de Cadouin, disant que c'est l'authentique linceul de Jésus. Donc par conséquent, il n'avait pas à se pencher trop particulièrement sur le linceul, sur ce grand linge qu'on déployait jamais. Et d'ailleurs, bon, quand on déploie le linge, on voit quelques taches brunes, vous le disiez vous-même. Il faut reculer de 3-4 mètres pour vraiment voir apparaître une silhouette. et encore une silhouette un peu floue.
Mais lors des ostensions, plus vous êtes près du linceul, moins vous voyez ce qu'il y a dessus.
Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Donc il faut au moins 3-4 pas pour pouvoir commencer à voir quelque chose. Donc, conserver dans une boîte, dans un reliquaire, qui n'a pas été changé d'ailleurs depuis l'arrivée des DEF, eh bien, ce linge était considéré comme quelque chose d'insignifiant, et il l'a donné en cadeau, de même qu'il lui a fait le cadeau aussi de quelques cheveux de la Vierge, faisant partie du trésor de Notre-Dame. Et c'est comme ça que les ostensions ont commencé.
Jean-Christian Petit-Fils, en 1898, donc, les photos du chevalier Pia vont être un coup de tonnerre. À partir de ce moment-là, les recherches scientifiques vont être organisées, de vraies recherches scientifiques qui ne cesseront plus, qui donnent toutes des résultats extraordinaires, déconcertants, prouvant l'authenticité du linceul, jusqu'en 88 à la fameuse affaire du carbone 14. Alors là, vous parlez d'une véritable crise épistémologique, mais qui condamne bien davantage le carbone 14 et la méthode que le linceul lui-même.
Oui, cette histoire du carbone 14 a donné lieu à de très nombreuses controverses. Il y a eu 3 laboratoires qui ont été impliqués, Oxford, Zurich et Tucson aux États-Unis. Les résultats qui ont été donnés, c'est 1290, 1360, donc quelque chose de parfaitement médiéval. Donc ça serait un faux fabriqué au Moyen-Âge.
Bon. Un faux fabriqué, on ne sait pas comment, qui a l'avantage d'apparaître précisément au moment où le suaire apparaît à l'irée.
Voilà, exactement. Bon. Et puis les chercheurs se sont penchés quand même sur les résultats, d'ailleurs des résultats pas très complets, qui ont été publiés dans la revue Nature en début de 1989, sans donner les résultats complets, sans donner les travaux préliminaires, etc. 4 pages simplement, mais à partir de là, et des chiffres, les statisticiens se sont dit, attention, il y a une grosse discordance entre Oxford d'un côté et puis Zurich-Tucson de l'autre. Ça ne fonctionne pas statistiquement. On a l'impression que ce sont des échantillons différents. Alors certains ont dit qu'il y a eu des substitutions d'échantillons. Tout ça, je n'y crois absolument pas. Ces laboratoires sont des laboratoires très sérieux et n'ont pas participé à la moindre...
fraude.
Fraude, voilà. Donc... on s'est aperçu aussi qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans les travaux préparatoires, des tests en aveugle n'ont pas été respectés, les laboratoires se sont communiqués les résultats entre eux, ils avaient tellement peur d'avoir des résultats divergents que naturellement ils se parlaient, mais ils avaient promis de ne pas se parler.
C'était très peu scientifique.
Etc. Donc, depuis même, on a obtenu grâce à un chercheur français, Tristan Casabianca, les chiffres bruts du British Museum, qui était le coordinateur de l'opération. Et là, tout le monde s'aperçoit qu'en réalité, il y a une discordance absolue entre les 3 échantillons qui ont été prélevés l'un à côté de l'autre, les uns à côté des autres. Donc, on est là dans un mystère. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Les résultats des échantillons de contrôle sont parfaits. On avait choisi 3 échantillons de contrôle et on est tombé dans les dates pile, donc dans les dates exactes. Mais avec le linceul, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est là que, bien entendu, les spécialistes se sont dit, attention, il y a eu des pollutions énormes, le linceul a été conservé dans une jarre, probablement pendant des années et des années, avec des remontées humides et de carbonate et des imprégnations de carbonate de calcium, il y a eu des champignons, on a trouvé traces de champignons sur le linceul, tout ça n'avait pas été nettoyé, et puis il y a un chercheur, Raymond Rogers, en 2005, qui, après une étude très fouillée, a montré que dans cette zone, dans la zone de prélèvement, il y avait eu des rabodages, donc on avait cousu des fils, et notamment des quelques fils de coton en supplément du lin, puisque le linge étant lin, et par conséquent, tout cela avait faussé les résultats.
Jean-Christian Petit-Fils, cette émission tourne malheureusement à sa fin, parce que nous pourrions discuter encore très longtemps de ce sujet qui est extraordinaire. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est que toutes les preuves scientifiques sérieuses convergent vers l'authenticité, mais vous-même, que diriez-vous de l'importance du linceul? On pourrait nous démontrer demain matin, d'un point de vue chrétien, que ce n'est pas le linceul de Jésus. Je vous dirais que ça ne change rien autrefois. Mais
bien sûr.
Si c'est le contraire, qu'est-ce que justement, cela apporte à des croyants?
Eh bien, ça apporte aux croyants d'abord des renseignements extrêmement précieux. Le docteur Barbet, notamment dans les années 30, l'a montré sur la passion de Jésus. Comment le Christ a été crucifié.
Un livre terrible qu'il faut lire parce que à méditer une semaine sainte, c'est un livre indispensable pour tout croyant.
Absolument. Comment le Christ est mort et a été flagellé, c'est un supplice atroce qu'il a enduré. Il y a eu beaucoup de crucifiés, bien entendu, mais pour les croyants, Jésus a donné un sens et il est le seul à avoir donné un sens à la souffrance. Ce que la seule apporte, c'est qu'il apporte quelque chose d'autre encore. C'est que les caractéristiques déroutantes de cette image, l'inversion des couleurs, la tridimensionnalité, une sorte de projection orthogonale de l'image sans effet latéral, l'absence de la moindre trace de décomposition, ni d'arrachement des caillots, c'est ça qui est fantastique, eh bien, nous conduit à un autre mystère qui est celui de la résurrection.
Jean-Christian Petit-Fils, un immense merci pour cet exposé passionnant. Je rappelle à nos lecteurs que vous publiez chez Talendier Le Saint-Suaire de Turin, L'Enquête, un ouvrage auquel je renvoie parce qu'il est extraordinaire, passionnant, parce qu'il démonte toutes les sottises qu'on a pu raconter dans les médias et même dans les milieux scientifiques depuis 1988 pour essayer de décrédibiliser ce qui apparaît plus qu'une relique. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Au revoir, madame.
Au revoir.